Hey Étienne, j'ai le goût de te parler de quelque chose qui a été envoyé dans l'espace en 1977.
En 70... Star Wars?
Non, Voyager.
Star Trek Voyager?
Non, voyons, la sonde Voyager 1 de la NASA.
La sonde.
À deeply love.
J'adore ça.
J'adore.
À deeply, deeply, deeply love.
Parfait, parfait. Initiative.
8.
3. Je roule de la bouette depuis... Ça fait 5 épisodes de suite, Baptiste, que t'animes.
Pour
vas-y,
ça,
c'est toi qui anime.
C'est moi qui vais animer encore. Salut, cher astronaute ou futur astronaute. On avait envie de te proposer ce format plus court une fois de temps en temps, un mini-zode tel qu'on l'appelle, pour traiter d'un seul sujet et te laisser l'occasion de triper là-dessus avec nous. Ça ne remplacera pas un épisode standard, c'est un épisode bonus.
Ouais, si t'es nouveau, on veut t'aider à embarquer avec nous en te donnant un petit avant-goût de ce qui t'attend si tu décidais de te lancer dans tous nos longs et beaux épisodes standards.
Yes, et si t'es un habitué du podcast, t'as peut-être besoin de ce format plus court pour t'accompagner dans ta marche matinale, par exemple. On veut juste du bien à tes oreilles.
Ouais.
Yes. Fait qu'aujourd'hui, on parle du sujet suivant. Voyager 1. J'ai suggéré ce sujet-là à Étienne parce que je suis tombé sur une vidéo qui m'a fasciné. Figurez-vous que, bon, c'est ça, on disait en intro, hein, c'est une sonde qui a été envoyée en 1977, la première sonde. En fait, c'est drôle parce que Voyager 2 a été envoyé avant Voyager 1. Mais il y a une raison très particulière à ce programme de la NASA-là, c'était de profiter d'un certain alignement de planètes qui n'arrive qu'une fois aux 170 ans ou 175 ans, je pense.
176,
ok, ouais, c'est ça. Ouais. Et cet alignement de planètes-là leur permettait d'envoyer une sonde qui allait, Voyager 1, qui allait plus regarder Jupiter et Saturne en particulier, et l'autre qui allait regarder, si je ne me trompe pas, Neptune et Uranus.
Exactement.
C'est ça. Puis l'idée, c'est pourquoi ce fameux alignement-là est intéressant. C'est parce que... Ça, c'est le premier truc qui m'a fasciné quand j'ai regardé la vidéo. C'était un short sur YouTube, je ne sais plus trop quoi. Bref. Puis là, il parle de l'effet slingshot.
On parle souvent de cinéma, hein? Puis on parle énormément de cinéma dans le podcast. Oui, puis l'effet slingshot... Hey, si y a un film où ça se passe dans l'espace, c'est sûr qu'ils vont faire comme... Non, t'as peur, l'effet slingshot.
L'effet slingshot.
Je vais l'écrire dans le scénario. Ça, c'est cool.
Mettons que tu saurais pas c'est quoi, mais c'est quand même assez facile à comprendre. T'as un objet qui profite de la gravité d'un beaucoup plus gros objet que lui pour accélérer et modifier sa trajectoire. Quand tu passes proche de Jupiter puis que tu es une toute petite sonde qui s'appelle Voyager 1, ben c'est sûr que tu es attiré par Jupiter, donc tu accélères. Sauf que selon l'angle avec lequel tu arrives, ça se peut que tu ne restes pas pogné par son attraction puis sa gravité, puis que tu fasses juste comme continuer ta route, mais tu as dévié ta route puis tu as accéléré par la même occasion. Ouais. C'est ça que je trouve brillant dans tout cet exercice-là. Ça doit être... beaucoup de planification. Puis en 1977, ils ne devaient pas avoir les ordinateurs d'aujourd'hui pour faire
ni les films de Michael Bay pour nous parler de l'effet slingshot, tu sais.
C'est ça. c'est quand même fou. Fait, il y a quelques facts que je voulais parler de Voyager 1 que moi, j'en ai appris plus. Pour vrai, il y a des choses que je connaissais déjà un petit peu, mais on dirait que je ne m'étais pas assez intéressé à Voyager 1 pour savoir exactement c'était quoi. Bref, en ce moment, la sonde voyage à une vitesse de 17 km par seconde.
Ouais, c'est débile, hein? C'est débile, 17
km
sur seconde.
C'est tellement rapide, là. C'est impressionnant. Puis dites-vous que cette vitesse-là, justement, elle ne l'avait pas au départ. Elle l'a eue à partir du moment où elle est passée près de Jupiter et de Saturne, tu sais.
Mm-hmm.
Ça, c'est capoté. Ça, là, c'est...
Mais 17 km seconde, en ce moment, la sonde se trouve à 22 heures lumière de la Terre.
Oui. Ouais.
Puis là, c'est sûr que
22 heures lumière,
22 heures lumière versus, bon, 4 années de lumière, si tu veux te rendre à Proxima Centauri, il me semble que c'est 4 années de lumière. Ouais. À 22 heures, Étienne, c'est pas beaucoup. Mais non, hey, imaginez-vous assis dans un avion pendant 22 heures.
en ce moment, c'est
comme si Voyager avait pris l'avion à une vitesse de la lumière. pendant 22 heures. C'est long, là. Ah ouais. C'est long pour regarder des films mauvais en avion. Puis de... Non, non, pour vrai. Ah
oui, c'est
loin, 22 heures lumière.
Ah, j'imagine Voyager avoir ses petits films mauvais, genre, puis tout... être comme pogné. Bon, il faut que je regarde les maudits films qu'on me propose.
Mais 22 heures lumière. Catastrophe dans l'espace, en plus.
22 heures lumière, c'est 25 milliards de kilomètres de la Terre. C'est loin, c'est tellement loin que ça sort de ce que je ne me rappelais plus, c'était quoi? De l'héliosphère.
Attends, qui... 25 milliards?
Je crois que oui.
Ah oui, ok, ça veut dire que... Oh, wow! Oh, 25!
Ouais. Ah, c'est loin, là. C'est loin, puis en même temps, c'est pas loin.
C'est ouais, fou. Mais c'est ça, ça dépend à quelle échelle tu regardes.
Mais t'es sorti de l'héliosphère. Puis l'héliosphère, ouais. C'est une espèce de grosse bulle, là, genre, autour de notre soleil, puis le soleil, il envoie plein de particules partout, genre, parce qu'il décide de toujours nous asperger de toutes ces particules tout le temps, le soleil. Mm-hmm. Sauf qu'il y a une limite à ça. Puis la limite, c'est la fameuse héliosphère, là. Les particules du soleil ne vont pas plus loin que cette sphère, là. C'est une espèce de grosse bulle dans laquelle on se trouve. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Puis le système solaire, lui, est encore un peu plus grand que cette héliosphère-là, de ce que j'ai compris. Puis au-delà de cette héliosphère que Voyager, dans laquelle Voyager avance, il y a un truc, je ne sais pas si je vais bien le dire, un Oort Cloud.
Le nuage de Oort.
Le nuage de Oort.
Oort.
Oort, qui, si j'ai bien compris, un gigantesque nuage de particules de glace, essentiellement. Ouais. C'est très gelé. Fait que là, ouais. Notre Voyager est passé par des températures chaudes extrêmes, paraît-il, et il va bientôt passer par des températures froides extrêmes aussi. Mm-hmm. C'est quand même... C'est fou raide. En tout cas.
C'est tout un voyage, honnêtement.
C'est ça. Est-ce que tu savais aussi, Étienne, qu'il émet un signal à 22 watts?
Ouais, j'ai lu que c'était comme la puissance d'une ampoule de frigo.
Oui.
Non, mais il y a quelque chose de complètement capoté là-dedans. Puis, ouais. Moi, j'ai un fait que je veux citer parce que en novembre 2023, Voyager ouais. 1 a ouais. commencé à communiquer du charabia plutôt que de l'information cohérente.
Oui, j'ai vu ça aussi passer. Oui, oui,
là,
oui, oui.
C'est parce que c'était une de ces puces qui était brisée.
Oui.
La puce servait à Voyager à pacter l'information avant de l'envoyer. Donc, c'est comme comment je vais compresser l'information pour l'envoyer ouais. sur Terre. Puis quand les scientifiques se sont rendus compte de ça, ils ont fait comme, OK, attends un peu, c'est ça qui se passe. Qu'est-ce ouais. qu'on peut faire pour réparer?
Ouais. Ouais.
Je soulignais ces mots-là. Réparer l'engin le plus loin qu'on a envoyé de l'histoire de l'humanité.
On va réparer un engin qui est à 25 milliards de kilomètres.
Puis ils ont réussi. Ils ont d'abord envoyé une commande pour dire à Voyager, « Hey, stocke ton code différemment. Mm. » Ce que Voyager a répondu, « J'ai pas cet espace-là.
Ah, » Non, c'est ça.
« Hey, ouais. je date de 77. Ouais. Calme-toi le pompon. Ouais. » Donc, les scientifiques, il a fallu qu'ils disent à Voyager, hey, sépare ton code de telle façon, uh-huh. stocke-le uh-huh. de telle façon ouais. pour réparer la communication. Mais ça, tu fais ça à distance. Ah, et chaque capoté. Message que tu envoies prend 22 heures à se rendre. Ouais. Et ouais. chaque réponse que tu reçois prend ouais. 22 heures à arriver. Ouais. Hey, c'est débile.
C'est capoté. C'est capoté. Ouais. C'est fourré de se dire qu'il y a cette affaire. Attends, c'était quoi que j'avais vu aussi? Moi, j'en avais appris plus sur justement pour être capable de constamment être en échange, en communication avec Voyager 1. On ouais. a le Deep Space Network.
OK. Ils
sont trois giga-antennes, une en Californie, une en Espagne, une en Australie.
OK.
Ce qui fait en sorte que peu importe comment la Terre est tournée, il y a toujours au moins une antenne qui est capable de communiquer puis de recevoir des signaux.
D'attraper
de Voyager 1. Ouais.
Le signal ouais. de frigo
oui.
de Voyager 1.
Le frigo.
Écoute, non mais fais juste y réfléchir un instant, c'est complètement débile.
Puis, tu sais, j'avais lu aussi qu'il y a une genre de mini-capsule qui permet de le propulser puis de lui fournir de l'énergie au nucléaire.
Oui.
Parce que tu n'as pas de, tu peux pas avoir des panneaux solaires quand tu es aussi loin du soleil si tu veux continuer à fonctionner.
Exact.
C'est quand même très intéressant. Puis, je pense que ils ont dû, avec le temps, shut down des modules qui n'étaient pas essentiels à la mission Voyager 1. Et il y a l'un des modules de photographie. La dernière photo qui a été prise, c'est The Pale Blue Dot. Qui est notre fameuse Terre vue de très, 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 très loin. Puis juste après cette photo-là, le module de caméra a été éteint à jamais.
Mais ça, c'est drôle, hein? Pense-y, pour conserver de l'énergie, c'est pas juste de dire « Hey, système, arrête de prendre des photos. »
Non.
C'est de lui dire « Supprime le logiciel pour prendre des photos. » Ça va te calmer un peu. c'est à ce point-là de la micro-optimisation.
C'est capoté.
Ouais, hey, d'ailleurs le plutonium 238 qu'ils utilisent, à un moment donné, il ne générera plus assez d'énergie. Oui. Mm-hmm. Puis là, on estime qu'on va avoir le silence radio en 2036.
Ouais, j'avais vu ça aussi.
Mais ça, cette date-là est constamment repoussée. Parce que,
ça, j'avais pas.
En fait, pas celle-là en particulier. Tu sais, 2036, ça devrait être la dernière. Ouais. Mais c'est parce qu'avant, ils se disaient, on devrait manquer de piles en 2000, je sais pas quoi. Puis là, finalement, ça dure plus longtemps. Puis finalement, Voyager envoie du charabia, c'est fini. Finalement, on l'a réparé. Alors, on dit 2036, mais peut-être que... c'est jamais. Peut-être que Voyager va devenir conscient et gérer lui-même son énergie autrement. Qui sait? Non, mais pour vrai, c'est...
C'est capoté. Mais
c'est capoté.
Avais-tu vu aussi le... Ça, c'est le dernier gros truc que j'avais fait comme... Ah oui, c'est vrai qu'ils avaient envoyé ça, puis... Mais j'avais pas compris en détail c'était quoi. Il y a un disque d'or à bord de Voyager 1.
Ça, c'est hot, là.
Ça, c'est hot, parce que ça fait genre écho à... Et si un jour, une vie extraterrestre intelligente tombe sur cette sonde-là, est-ce qu'on peut lui transmettre un message de qui on est, c'est quoi la planète Terre, où est-ce qu'on est, etc., toutes ces choses-là. Fait il a fallu qu'ils inventent, à partir de choses qui sont connues à travers tout l'univers, une façon de communiquer, genre, à des gens qui trouveraient ce CD-là, des vies extraterrestres intelligentes, de communiquer. Fait que là, la première unité de mesure sur laquelle ils s'appuient, c'est genre, je pense, entre deux atomes d'hydrogène, montrer un genre de longueur d'onde universelle entre ces deux atomes-là qui est de 7 nanosecondes.
Exact.
Fait que là, attends, c'est quoi le truc qu'on retrouve dans tout l'univers? De l'hydrogène. OK, on va s'appuyer là-dessus. Ouais. Tu sais, c'est comme... Non, mais quand tu penses, c'est capoté, là.
C'est vraiment cool parce qu'après, tu sais, ils ont envoyé des photos. Ils ont envoyé des sons. Mais tout ça, ils l'ont... Tu sais, ils l'ont mis sur un disque.
Ouais.
Là, après, il faut que tu dises à monsieur l'extraterrestre, « Hey, pour vrai, là, voici toute la solution au puzzle pour déchiffrer ce disque-là. »
C'est comme un escape game qu'on envoie au
Non, mais imagine, Baptiste, c'est capoté. Demain matin, tu te promènes dans la rue, puis là, tu tombes dans les mains un disque et tu dois le décoder. Et ça contient l'endroit... ainsi que la langue, les images extraterrestres. Je veux dire, ce serait la plus grosse découverte. C'est un méchant cadeau qu'on a envoyé aux extraterrestres en espérant que ce n'est pas une espèce qui est trop...
Oui, c'est ça.
conquistador, mettons.
oui, c'est ça. Parce que si tu as lu The Three-Body Problem, tu sais que t'es mieux de rester caché dans la galaxie plutôt que de te montrer. C'est ça la morale de l'histoire dans Three-Body Problem. Mais bon.
Non, je pense qu'il y a des gens dans les années 70 qui se sont dit « Ah, de toute façon, moi, je vais être mort, donc j'en vois ça. »
Je m'en fous. C'est pas grave.
Je m'en fous. Hey, savais-tu que dans l'équipe d'imagerie de Voyager, ceux qui ont travaillé sur le disque en or, il y avait Carl Sagan, qui est Carl Sagan, c'est le Neil deGrasse Tyson des années 70-80.
Ah ouais, hein?
C'est ce gars-là est capable de vulgariser n'importe quoi, mais sans l'espèce de petit, je sais pas comment dire autrement, de cockiness de Neil deGrasse Tyson. Le gars était très posé et très pédagogue. Carl Sagan, à découvrir.
Ah ouais, hein? Carl Sagan. Ça, c'est un bon nom à découvrir. OK, je vais aller voir ça. Pour vrai, moi, ça fait à peu près le tour de ce que j'avais appris et découvert sur Voyager 1. Bon, il y a d'autres trucs plus en détail. Là, vous pourrez aller voir. Il y a des vidéos qui expliquent même comment le dessin du tourne-disque sur le Golden Disc avec un code binaire, puis l'expression en nanosecondes de la fameuse unité te permet de savoir à quelle vitesse doit tourner ce disque-là pour que tu puisses entendre les enregistrements. Tu sais, c'est quand même...
C'est tellement cool!
Je trouve ça tellement geek à souhait, là, ce genre de détails-là. C'est savoureux.
Le pire, c'est qu'on sait très bien ce qui va se passer. Là. Ça va tomber dans un champ, dans l'équivalent de l'Oklahoma, sur un monde extraterrestre, puis il y a quelqu'un qui va le trouver, puis qui va faire comme de l'or, puis il va le faire fondre.
C'est sûr que oui. Mais
moi, j'avais...
Oui, vas-y.
J'avais d'autres
vas-y.
Trucs.
Excuse.
Le Pale Blue Dot, dans le fond, on en a parlé tout à l'heure.
Ouais.
C'est une photo qui a été prise à une distance de 6,4 milliards de kilomètres de la Terre. C'est une photo de la Terre. Puis c'est vraiment cool. Pour ceux qui n'ont pas vu la photo, imaginez une photo où on voit, bon, l'espace... Et il y a comme des reflets un peu à la J.J. Abrams, là, un peu lens flare de « OK, il y a des reflets dans la lentille. Ouais. » Puis dans un des rayons de soleil qui passe, il y a un point bleu plus pâle que tout le reste. Puis ça, c'est la Terre. Puis cette photo-là, c'est Carl Sagan et son équipe qui avaient proposé de la prendre. Mais ça a pris, je ne me rappelle plus si c'est 6 ou 8 demandes officielles de
«
Hey, NASA, prenez la photo. » Puis ça se faisait refuser constamment parce qu'ils avaient peur que de pointer le capteur vers le soleil abîmerait le capteur. Donc, ils ont gardé cette photo-là pour la toute fin.
Ah, je comprends. Parce que comme ça, si ça brûlait, mettons, la lentille de la caméra, ben...
C'est pas grave pas parce grave. Que de toute façon,
je
il comprends. Allait supprimer le,
ah, ouais, hein.
le logiciel pour prendre les photos.
Ah, c'est
oui,
vraiment
exactement.
Intéressant, ça.
C'est vraiment cool. On a dit aussi que Voyager 2 était lancé avant Voyager 1.
Oui.
Il était lancé une, deux, trois semaines avant, quelques jours avant.
Mais elle navigue légèrement moins vite, ce qui fait qu'elle est rendue vraiment moins loin que Voyager 1.
Puis c'est pour ça que ça a été nommé Voyager 2. Parce qu'on savait que ça allait aller moins vite et donc se rendre moins loin. Mais tu sais, c'est un peu étrange comme façon de penser. C'est comme si ils avaient nommé le premier iPhone le iPhone 68 parce que le iPhone 1, après, il allait aller, tu sais, plus performant. Je sais pas. Il y a quelque chose dans ma tête que c'est à l'envers,
c'est
mais je sais pas trop. À la base, Voyager 1 et 2 devaient s'appeler Mariner 11 et 12.
Hey, je
ça devait
pas ça.
Être sous le programme Mariner, mais ils ont tellement modifié le design de la sonde que c'était plus vraiment une sonde Mariner. Alors, ils ont fait comme... Vous savez quoi? On va faire un autre programme. On va partir un autre programme. Voyager 2, c'est grâce à cette sonde-là qu'on sait que sur Neptune, il y a des vents supersoniques.
Oui.
Essaye simplement d'imaginer un vent supersonique, Baptiste, à quel point ce serait violent... Et ce serait fort en termes sonores.
Ouais. C'est des vents dans lesquels tu m'entends crier « Ouais! »
on t'entendrait quand même parler de trous noirs puis de Christopher Nolan. Ça irait pas de problème. Mais ouais, des vents supersoniques.
Ah,
t'sais,
ouais.
Quand tu brises la vitesse du son, en plus, ça fait un boom supersonique. Le vent, c'est ça.
Ah, c'est ça. Puis mais c'est vrai que quand tu regardes les photos, là, tu regardes les photos de même Jupiter, de Saturne qui ont été prises, c'est tellement beau. Là, Jupiter, c'est une espèce de... C'est comme une... On dirait que quelqu'un a fait une peinture magnifique.
Oui.
Genre, c'est tellement beau à regarder. Là, ça n'a aucun sens. Puis les anneaux de Saturne sont époustouflants. Là. Puis il y a comme une... Je ne savais pas, mais en voyant une photo, il y a un truc, une vidéo qui expliquait qu'il y a certains satellites qui permettent de comme... pas fixer les anneaux, mais genre les garder tels qu'ils sont actuellement. Il y a certains satellites qui tracent des lignes bien particulières, puis ça aide toute la belle uniformité de l'anneau. Je sais pas, il y a quelque chose de très organique, intéressant là-dedans.
C'est tellement cool. Tu sais, il y a quelque chose, Baptiste, dans l'exploration spatiale des années 60-70 qui a pu aujourd'hui... Tu sais, juste pour te faire un parallèle, un des trucs qu'on a envoyé juste à la dérive dans l'espace récemment, c'est une Tesla.
Oui.
Tu sais...
Je pense que je préfère Voyager 1.
De loin. Imagine tout le potentiel perdu d'envoyer une voiture dans l'espace.
Une Tesla avec genre un demi-robot là-dedans.
Ouais, exactement. Un astronaute, faux astronaute.
Ah, c'est ça.
Des fois.
Mais moi, j'aime imaginer la petite sonde Voyager 1 qui va vivre sa vie de sonde. Je sais pas pourquoi je l'imagine si flottée, là. Une fois qu'elle aura perdu tout contact avec nous autres en 2036, elle s'en va à travers le feu et la glace dans l'espace interstellaire toute seule. Il y a de quoi de fascinant d'imaginer ça. C'est une sacrée bouteille à la mer, quand même.
Quasiment romantique.
Oui, oui vraiment. Ouais. Oui, c'est ça. Oh là là. Merci pour le partage, Étienne.
Je tremble de peur dans mes petites spatiaux.
Merci d'avoir été avec nous pour cet épisode. Si vous avez aimé ce que vous avez entendu, il y a plusieurs façons de nous donner un coup de pouce.
Oui, d'abord, si vous êtes un nouveau, abonnez-vous. Abonnez-vous pour rien manquer. C'est gratuit. Ça nous permet de rester connectés. Vous pouvez aussi nous laisser un petit 5 étoiles, un pouce en l'air ou quelque chose, un commentaire. C'est quelque chose qui aide énormément à faire connaître le podcast.
Tout à fait. On a aussi, en plus, si tu veux aller plus loin, on a un Patreon. OK? C'est une excellente façon de soutenir le podcast tout en accédant à du petit contenu exclusif ou à notre Discord. Tu peux t'inscrire gratuitement, avoir accès au Discord et à des publications un peu exclusives là, qu'on fait là-dessus. Il y a aussi un abonnement payant de seulement 2$ par mois pour nous soutenir. En échange, on te mentionne à chaque fin d'épisode, puis on permet même de poser des questions à nos invités pour les entrevues.
Oui.
D'ailleurs, on a un capitaine qui a le droit à sa mention puisqu'il est le premier abonné payant. Jean-Philippe JP.
Capitaine Jean-Philippe.
Qui est le champion en titre de notre pool des Oscars.
Oui.
Tous les détails pour Patreon sont sur j'adoresapodcast.com.
Sur le site, vous trouverez aussi tous les liens pour nous écouter. On est sur Spotify, on est sur Apple Podcasts, on est sur YouTube Music, Audible, Amazon Music et bien d'autres. On est même sur Deezer.
On est même sur
Deezer. Et des plateformes que j'ai jamais entendu parler. On est dessus quand même. Je vous jure, abonnez-vous. Abonnez-vous.
Et comme toujours, le meilleur moyen de nous faire découvrir, c'est d'en parler autour de vous. Rentrez à la caisse des jardins populaires. Dites « Hey, j'ai un épisode du podcast « J'adore ça » que je viens d'entendre qui est malade. Voulez-vous l'écouter? Voilà mes écouteurs, écoutez-le. » Si vous connaissez quelqu'un à qui cet épisode, ça ferait plaisir, n'hésitez pas à le partager.
Ouais, un tripé de l'espace, hein, ça serait cool.
Oui.
Merci encore, les astronautes. Merci d'être avec nous.
Et on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode.
Bye!
Bye!
J'adore ça! J'adore!
Trop facile, un mini-zode, trop facile.